Lille Info, comme chaque mercredi à 17h30 sur Radio Campus, une demi-heure consacrée à la présentation de ce qui se fait, de ce qui se trame, de ce qui se développe à l'université de Lille 1. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des relations internationales. Avec Jackie Lesage, qui est vice-président chargé des relations internationales à Lille 1, et Véronique Level, qui s'occupe de la coordination de la mobilité au Centre international. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, évidemment, il n'est pas d'université sans esprit universel et il n'y a pas non plus d'université sans relation à l'autre et aux autres pays notamment. Donc l'université de Lille 1 dans ce domaine a une stratégie peut-être, on peut dire, comment ça fonctionne, les relations entre une université et le monde. Jacques Lesage.
Eh bien, l'université de Lille a choisi depuis déjà un bon nombre d'années de développer une politique d'ouverture à l'international. Et cette politique d'ouverture à l'international se traduit par un grand nombre d'activités différentes qui concernent aussi bien la formation que la recherche. Alors on peut se demander ce que c'est que l'internationalisation d'une université. Qu'est-ce que c'est qu'une politique d'ouverture internationale? Et tout ça, ça doit être discuté et débattu. Mais en tout cas, il y a une agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en France qui précise bien quels sont les critères qu'elle retient pour démontrer l'internationalisation d'un établissement.
Quels sont les enjeux de cette internationalisation?
Alors, les enjeux sont de différents ordres. Mais l'un des enjeux essentiels, c'est la visibilité de l'université dans un contexte non plus seulement national, mais dans un contexte international. Il est clair que si l'université veut exister au plan international, il faut qu'elle puisse proposer des formations de qualité et des échanges de qualité, c'est-à-dire un accueil aussi de qualité.
Donc ces échanges, ils sont planifiés? Il y a une stratégie? On vise certains pays ou pas d'autres? Ça se fait combien de temps avant, les plans de développement?
Alors il y a effectivement une stratégie et elle est déjà en marche depuis plusieurs années. Moi, je vais parler un petit peu des dernières années parce que je suis en charge des relations internationales que depuis 3 ans. Mmh. La politique d'ouverture internationale est développée déjà depuis une bonne quinzaine d'années à l'Université de Lille et a pris tout son sens lors de la création du Centre international de Lille qui permettait de structurer davantage les échanges. Alors cette structuration touche essentiellement la mise en convention entre notre université et les universités partenaires de manière à structurer ces échanges.
Alors Véronique Level, vous êtes coordinatrice, on va dire, de la mobilité au Centre international. Ce Centre international regroupe plusieurs universités ou seulement Lille 1?
C'est le Centre international de Lille 1. En fait, on l'appelle Centre international depuis 2005, mais c'est ce qu'on appelle dans les autres universités un service des relations internationales.
D'accord. Et donc, on peut peut-être déterminer un peu les pays qui sont concernés par les plus gros échanges, on va dire, et peut-être voir si vous visez d'autres cibles, d'autres pays du monde, d'autres parties du monde.
En fait, je pense qu'il faut faire une distinction entre les échanges entrants, on va dire la mobilité entrante, donc les étudiants que l'on accueille, et les étudiants que l'on envoie à l'étranger, c'est-à-dire nos étudiants qu'on envoie à l'étranger. Les étudiants de Lille 1 qui partent en mobilité, c'est essentiellement dans le cadre du programme Erasmus. Donc à peu près 400 étudiants par an bénéficient de ce programme. On a une quarantaine d'étudiants qui partent en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Chine aussi, un peu en Russie. Mais c'est vrai que c'est essentiellement européen. Et ça, c'est des mobilités étudiantes, enfin des mobilités d'études, on va dire.
Voilà, donc Erasmus, c'est un programme européen.
Oui.
Qui est financé par l'Europe.
Financé par la Commission européenne, oui.
Mmh. Et ça touche beaucoup d'étudiants de Lille 1?
À peu près 400 par an.
Et est-ce qu'il y aurait la possibilité d'accueillir davantage d'étudiants Erasmus, enfin d'exporter?
Alors,
davantage d'étudiants
Erasmus? 400 étudiants de Lillains qui partent en mobilité dans le cadre d'Erasmus. Il n'y a pas de nombre déterminé, c'est-à-dire qu'on peut augmenter notre nombre, et c'est aussi un des objectifs de la stratégie internationale, c'est d'augmenter la mobilité sortante de nos étudiants. Et donc c'est évident que les étudiants qui veulent partir dans le cadre d'Erasmus ne sont jamais limités dans leur choix.
Donc pour l'augmenter, il faut que les étudiants soient demandeurs. En fait, il faut motiver les étudiants qui veulent sortir de nos frontières.
Oui, et trouver aussi des partenaires européens.
Si on compare à une taille d'université égale, est-ce que vous pensez que les universités françaises envoient moins d'Erasmus à l'étranger que le contraire? Est-ce qu'on est bien placé ou est-ce qu'il y a du retard?
On n'est pas trop mal placé, même si on considère que l'étudiant français, il n'est pas forcément très mobile. Par exemple, en ce qui concerne l'ILIN, on est quand même l'une des universités scientifiques qui envoie le plus d'étudiants à l'étranger.
C'est vrai qu'on a pas mal de pays autour, c'est peut-être plus facile que quand on est en Auvergne, par exemple.
C'est vrai que nos étudiants partent facilement en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. On est quand même un pays frontalier, donc c'est facile pour eux de partir.
Alors, Jacques Lussage, cet ancrage, donc, on peut dire, des pays proches de la France ou de notre euro-région, on va dire, est-ce que le Nord-Ouest européen est suffisamment pris en compte encore ou est-ce que vous souhaitez développer?
C'est l'un des objectifs du quadriennal, c'est bien, qui est en cours, qui démarre maintenant en 2010, c'est bien de développer cet ancrage avec nos partenaires proches, puisqu'on développe beaucoup, par exemple, avec l'Amérique latine, on a développé beaucoup avec la Chine, avec l'Inde, avec d'autres pays. Et nos voisins les plus proches, on a peut-être pas suffisamment développé, alors qu'on a un potentiel énorme. On a d'excellentes universités qui sont très proches et qui sont très très bien situées dans les classements de Shanghai, par exemple. Et donc, ça serait dommage de ne pas profiter de ces excellents échanges qu'on pourrait mettre en place.
Alors, si on donne quelques chiffres, les plus grosses communautés d'étudiants qui sont à Lille, hors français, bien sûr, on retrouve en premier le Maroc, je crois.
Le Maroc, la Chine, l'Afrique subsaharienne, et puis ensuite, on a un peu d'étudiants européens, d'Amérique latine, c'est essentiellement l'Afrique.
D'accord.
Subsaharienne et saharienne.
Donc effectivement, quand on vient le week-end ou pendant les vacances sur l'université, on a plus de chances de voir des Chinois que des Français. Ils sont quand même 700.
Oui, ça fait beaucoup. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux viennent en candidat libre, alors qu'on aurait la possibilité, si on le souhaitait, de développer encore, je pense, l'accueil d'étudiants chinois sous convention. C'est difficile pour les étudiants chinois qui viennent en candidat libre de travailler sur l'université de Lille parce que bien souvent la préparation en langue n'est pas suffisante. Leur niveau de recrutement est quelquefois pas tout à fait suffisant pour les disciplines qu'ils veulent traiter. Et puis il y a surtout les problèmes financiers. Normalement, ils sont censés avoir les capacités de trouver un logement, de vivre correctement. Et quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés.
Alors, là, c'est difficile pour nous de conseiller des étudiants chinois qui sont en Chine de passer par les filières, on va dire, partenariales. Mais néanmoins, ce serait l'objectif.
Oui, on travaille beaucoup avec Campus France, par exemple, qui nous permet qui quelquefois organise des sélections d'étudiants, qui nous aide auprès des ambassades à développer une sorte de présélection des étudiants, mais c'est encore à développer.
Alors effectivement, avoir des candidats libres, ça peut aussi poser parfois des problèmes de niveau et surtout des problèmes de langue, de compréhension du langage français.
C'est bien pour ça que la Maison des langues est là pour répondre éventuellement à cette demande. Ce qu'on cherche à faire bientôt aussi, ce qu'on va développer, c'est la mise à niveau d'étudiants par des cours accélérés avant qu'ils rentrent à l'université.
Mmh. Donc ce développement international, il est un fait maintenant au travers de toutes les stratégies de toutes les universités. Est-ce qu'il y a des enjeux économiques par ailleurs par rapport à ce développement ?
Des enjeux économiques au niveau de l'étudiant, c'est sûr. Et l'étudiant on parle des étudiants ici qui sont dans le cadre des conventions qu'on développe, c'est des étudiants qui vont être capables d'abord de pratiquer des langues étrangères dans de bonnes conditions. C'est des étudiants qui auront une maturité bien plus grande que s'ils étaient restés chez eux. Donc c'est du point de vue de l'étudiant lui-même. La participation à des programmes d'échange internationaux, c'est un plus qui va le placer dans le système de recherche de travail, par exemple, en meilleure position.
Et pour l'université, est-ce que ça ramène des financements d'avoir des étudiants étrangers ? Puisque là, on parle de conventions, au-delà des candidats libres, on va dire.
Par exemple, dans le cadre des échanges Erasmus, il y a une partie d'aide pour l'université. Donc ça permet de développer et de travailler dans de bonnes conditions.
Mmh. Alors au-delà de cet aspect économique, il y a aussi un aspect solidaire, hein, c'est-à-dire une région avec ses universités, est-ce qu'elle peut aider des pays à se développer, à développer sa recherche, son enseignement, voire sa technologie ?
C'est des choix peuvent ou non faire les universités. L'université de Lille a fait un choix. C'est l'un des objectifs du quadriennal, c'est de développer effectivement la solidarité avec les pays en voie de développement, pays d'Afrique en particulier. On peut citer les travaux qui se font en Centrafrique sur l'eau, hein, sur le traitement de l'eau et les laboratoires capables de traiter l'eau. On peut citer d'autres délocalisations de diplômes, par exemple, aussi en Afrique.
Ça veut dire que ce sont les enseignants de l'un qui vont là-bas ou non ? C'est possible, ça ?
Oui, on a la possibilité d'envoyer des étudiants, des enseignants. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on mette sur 2 ou 3 ans des moyens qui permettent aux pays étrangers de mettre en place leur formation. Et puis, dès qu'elle est en place, de les laisser travailler par eux-mêmes.
Parce que la validation des diplômes, ça demande quand même un certain suivi ou une certaine objectivité. Comment ça se fait dans les faits ?
Bien sûr. Alors, le système est tel que dans la convention qui lie les deux parties, on décide comment vont être évalués aussi bien les recrutements d'étudiants que leur évaluation et que la délivrance du diplôme final.
Mmh. Et dans le cadre des échanges, est-ce que les enseignants étrangers peuvent enseigner à l'Université de Lille ? Comment ça fonctionne ?
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs un des points sur lesquels on travaille beaucoup. On reçoit, en tout cas au niveau de l'Université de Lille 1, plus de 120 professeurs étrangers sous la forme de professeurs invités.
Mmh.
Et c'est un des points forts de l'Université de Lille que d'avoir des enseignants qui viennent régulièrement, chaque année, sur des postes vacants, sur des postes libres, et sont recrutés sur ces postes et viennent aider les équipes de recherche, dispenser des enseignements, et donc stimuler l'ouverture internationale de l'université.
Mmh. Et au-delà de ça, est-ce qu'ils ont des compétences particulières ou atypiques qu'on n'a pas, nous ?
Déjà, pour beaucoup d'entre eux, ils utilisent l'anglais.
Mmh.
Et donc les cours auxquels ils participent sont souvent des cours en anglais, ce qui intéresse énormément les étudiants.
D'accord.
Parce que c'est une autre approche. Bien souvent, une utilisation du rétroprojecteur davantage que dans certains autres cours, parce que ce sont des cours qui sont préparés déjà pour l'international. Donc ça aide beaucoup les étudiants aussi à ouvrir leur esprit à d'autres cultures et d'autres modes d'études.
Mmh. Alors, dans un autre domaine, est-ce qu'il y a des pays qui font appel à vous, qui frappent à la porte parce qu'ils ont d'un seul coup des besoins qu'ils ont programmés en enseignant ?
en particulier en Afrique noire. On a eu des demandes récentes de développer des enseignements. Alors tout ça, ça doit se faire sous forme de conventionnement et puis trouver des équipes qui sont capables et qui ont la volonté de travailler avec ces pays. C'est pas facile hein, de décider des anciens chercheurs de l'université de quitter pendant longtemps leur famille, de préparer un cours spécifique nouveau. Donc c'est vraiment des investissements que l'université doit reconnaître et qui sont quelquefois des investissements lourds.
Alors, il y a aussi des pays, je pense au Brésil par exemple, qui d'un seul coup développent son économie de façon énorme et donc tout ce qui est logistique avec et puis les relations avec la Chine par exemple ont amené à un gros développement de ce pays. Est-ce qu'ils ont des besoins dont ils vous font part également ?
En particulier pour le Brésil, la volonté qui a été affichée par Lula, le président brésilien, de doubler le nombre d'étudiants dans les 10 ans qui viennent. Et doubler le nombre d'étudiants, ça veut dire doubler aussi pratiquement le nombre d'enseignants. Et ça veut dire qu'il y aura un énorme besoin de formation d'enseignants. Et beaucoup d'universités ont envie de le faire avec des universités françaises, avec des universités étrangères. Mmh. Et en particulier, nous, on souhaite développer des formations, en collaboration d'ailleurs avec les universités de l'île 2 et de l'île 3, qui sont partenaires sur beaucoup de conventions qu'on met en place actuellement.
D'accord. C'est vrai qu'il est impensable pour l'île 1 de rester isolé par rapport aux autres universités lilloises. Comment ça se passe, cette collaboration ?
Il y a maintenant, depuis pratiquement 3 ans, on a décidé de permettre de présenter l'université de Lille à l'international comme un ensemble disposant d'une offre de formation la plus large possible. Donc, c'est-à-dire... Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que lorsqu'on rencontre une université, on se présente sous la forme de l'île 1, l'île 2, l'île 3, mmh. ensemble. Et donc l'offre de formation est complète, puisqu'on a lettres, sciences humaines, droit, santé, et puis tout ce qui est technologie et sciences. Et par exemple, on a fait une plaquette commune de présentation de nos 3 universités. Donc quand on va à l'international, on dispose de cette plaquette et on est capable de présenter les 3 universités en même temps.
Mmh. Alors, Véronique Level, comment ça s'établit une convention ? Ça s'établit directement entre universités ou ça s'établit entre une université ou des universités et un ou des pays ?
En fait, ça s'établit toujours entre universités parce qu'on ne signe pas d'accord entre pays. Mais c'est toujours à la base des contacts entre enseignants, entre chercheurs qui sont formalisés au bout d'un temps par une convention, un accord de coopération.
Mmh. Alors qu'est-ce qu'on écrit ? Ça va dans le détail, la convention, ou c'est dans les grandes lignes ?
Alors il y a certaines conventions qui restent dans les grandes lignes pour pouvoir permettre de coopérer dans différents domaines. Certaines conventions sont très précises parce qu'on a envie de développer des points très particuliers comme des doubles diplômes, comme des délocalisations de diplômes ou des co-tutelles de thèse par exemple.
Alors parlons de ces thèses justement. Bon, forcément la thèse c'est l'idéal de la réussite d'une université, c'est qu'on ait beaucoup de gens qui ont des compétences qu'ils font valoir après dans le monde de la recherche, de l'économie ou d'autres. Hein. Est-ce qu'il y a des stratégies pour développer le nombre de thésards ?
En fait, il y a des stratégies pour accueillir de très bons thésards. Mmh. Et pour cela, on a développé à Lille 1 depuis une petite dizaine d'années ce qu'on appelle les co-tutelles de thèse. C'est un produit qui est assez français. On est très fiers à Lille 1 d'avoir 120 co-tutelles de thèse en cours.
On peut expliquer ce que c'est ?
Alors, c'est en fait une thèse qui se déroule entre 2 établissements. C'est un étudiant qui fait sa thèse entre 2 établissements avec des périodes de mobilité. Donc, il est encadré par 2 directeurs de thèse sur un même sujet. Et il soutient devant un jury unique. Et à la fin, il obtient les 2 diplômes. Donc, il a 2 diplômes de thèse. C'est un travail qui est très intéressant pour l'étudiant et aussi pour les équipes de recherche parce que ça leur permet de collaborer ensemble par le biais de l'étudiant en thèse.
D'accord. Alors, donc là, on... Quand on aborde les thèses, les thésards, on peut aussi aborder la question des équipes de recherche. Jacques Le Sage, peut-être à ce niveau-là, comment ça fonctionne ?
Les thésards, alors si on continue à parler un petit peu des co-tutelles de thèse, il faut que les thésards qui viennent de l'étranger trouvent sur place les conditions de travail et de recherche qui soient compatibles avec leurs objectifs. Alors en général c'est complémentaire. En fait, les étudiants disposent d'un certain équipement ou de certaines techniques dans leur pays d'origine, et viennent chercher chez nous des techniques complémentaires qui vont leur permettre d'avancer dans leur recherche.
Alors, en quoi on est plus fort ? Dans quel domaine, par exemple ? Et peut-être nos faiblesses également ?
Alors, tout dépend. Alors, ce qui est pour nous une force, par exemple, c'est notre capacité à fournir toute la logistique bibliographique, par exemple, pour les étudiants. Qui viendraient de pays où l'Internet est plus difficile d'accès ou plus lent. Donc ici, ils viennent trouver des capacités de bibliographiques exceptionnelles, puisqu'on a sur l'université des abonnements électronique, un grand nombre de revues. On a tout ce qu'il faut pour bien travailler et faire de la bonne bibliographie sur l'université de Lille.
On peut dire aussi que toute l'université est en Wi-Fi, non ?
Aussi, oui, hein, partout.
C'est gratuit pour les étudiants qui ont un code d'étudiant, bien
voilà,
sûr.
Voilà, oui, c'est tout le monde ici peut disposer dans les résidences, par exemple, aussi, de la Wi-Fi partout. Hein. Donc ça, c'est extrêmement bon pour les étudiants. Mais il y a aussi des laboratoires qui disposent de compétences qu'on trouve nulle part ailleurs. On a des équipements qui sont de tout premier plan en Europe et même qui rivalisent avec des équipements de pointe au niveau mondial. Donc et puis des équipes qui sont très fortes en mathématiques, en physique, en matériaux. En chimie, on a vraiment, avec des instituts de recherche de très, très haut niveau, on a vraiment un pouvoir d'attraction très, très, très bon à l'Université de Lille.
Alors, quels seraient, s'il en existe, les points de faiblesse auxquels il faudrait peut-être s'attaquer ou s'attacher, justement, des partenaires qui pourraient aider à développer certains domaines ?
L'un des problèmes qu'on a identifié, c'est effectivement le manque d'ancrage avec la proximité, avec les universités d'excellence de proximité. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on veut développer dans les 4 ans qui viennent. Mais il y a aussi le fait que la mobilité n'est pas suffisante. Alors, les obstacles à la mobilité sont malheureusement nombreux, mais l'essentiel, c'est le manque de connaissance des langues étrangères, et sur lesquelles il faut qu'on travaille encore. Sur les problèmes financiers, on est dans une région qui est difficile, qui est très jeune, mais qui est aussi touchée beaucoup par le chômage. Donc il y a beaucoup de problèmes financiers. Et donc ça, on doit travailler pour aider les étudiants à trouver des moyens financiers pour partir en mobilité.
Est-ce qu'il y a un problème culturel à cette faculté des jeunes à aller à l'étranger, à vaincre l'inconnu ?
Oui, ça c'est un des freins essentiels. Mais on voit bien aussi que dans les programmes Erasmus, c'est évidemment les étudiants, parce que justement ils ont été peut-être plus confrontés à d'autres systèmes, c'est des étudiants qui viennent plus des familles des plus aisées qui partent en général. Mmh. C'est plus facile pour eux.
Est-ce qu'on peut donner comme indication qu'aller à l'étranger, soit en stage, soit en formation, ça peut apporter dans un CV quelque chose de très positif ?
Alors c'est clair que ça, c'est un peu le passage obligé maintenant. Quelqu'un qui peut faire état d'une mobilité convaincante, c'est un plus. Surtout s'il maîtrise correctement la langue. En général, cette maîtrise, elle est pas seulement de la langue, elle est la maîtrise aussi des sujets qui sont abordés.
Est-ce qu'il y a des pays où il fait bon aller pour valoriser un petit peu ce déplacement ? Est-ce que certains pays ont plus la cote dans un CV que d'autres ?
J'imagine que les pays de langue anglaise aussi sont bien appréciés, mais aussi les pays nordiques, parce qu'ils pratiquent bien l'anglais. Et les étudiants qui peuvent partir là-bas pratiquent un anglais qui est bien meilleur, en fait.
Mmh. Voilà, donc on peut peut-être aussi parler, en termes de documentation, d'un document de l'OFIP qui précise un petit peu les grands champs de développement de l'université par rapport à différents pays, à différentes populations.
Effectivement, nous, on a la chance d'avoir un office sur l'université qui peut faire tout ce qui est l'analyse des documents, l'analyse des statistiques de l'ouverture à l'international, et qui prépare régulièrement un point sur la politique d'ouverture à l'international, qui est diffusé à l'ensemble des enseignants et des chercheurs de l'université, et qui peut être aussi diffusé au niveau des étudiants. Mmh. Et leur servir d'outils de base pour savoir ce qui est le mieux, ce qui conviendrait de faire pour eux.
Donc cet outil, il est à la fois un document écrit, mais je suppose que sur le site de l'université, on doit trouver pas mal de données.
Oui, sur le site de l'OFIP, on trouve tout ce qui a été édité ces dernières années. Donc il suffit d'aller sur le site et de trouver tous les renseignements et toutes les statistiques concernant les mobilités d'étudiants, leur réussite, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils cherchent.
On trouve
tout ça sur l'OFIP.
On y accède par la plateforme de Lille, l'Université de Lille.
Directement, oui.
Et après, on a tous ces renseignements. Pour vous, je suppose qu'Internet, c'est un outil précieux pour conquérir le monde.
Ça, c'est clair que la communication Internet a permis de développer énormément les coopérations, en particulier les coopérations de recherche. Parce qu'on peut, du jour au lendemain, décider qu'on va participer à un programme et, en très peu de temps, écrire un projet qu'on va pouvoir transmettre à son collègue pour validation.
Alors, Jacques Lesage, pour conclure cette émission, est-ce que vous auriez un vœu, un souhait particulier ?
C'est de permettre à un plus grand nombre d'étudiants de partir en mobilité. C'est l'objectif qui est fixé au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau de l'université, bien sûr.
Voilà. Et Véronique Level ?
Je fais le même vœu, en fait, tout en sachant que c'est aussi une obligation européenne qui est imposée aux universités.
Bien, je vous remercie beaucoup et très bonne journée. Et puis, transmettez les amitiés au monde entier.
Merci. Ça sera fait.